Bonjour Jean-Philippe Daguerre.
Bonjour Elodie.
Vous êtes un touche-à-tout, tour à tour acteur, c'est d'ailleurs comme ça que vous avez commencé, auteur et metteur en scène. Vous avez toujours aimé jouer et associer les mots pour au final d'ailleurs mieux les faire sonner dans la bouche des autres sur scène. Votre plus grande passion reste sans doute le théâtre, avec une petite faiblesse quand même pour la réadaptation de contes. Et ça vous va bien puisque vous avez d'ores et déjà été consacré au Molière pour votre pièce inspirée de Ferréel, Adieu Monsieur Hoffmann, et pour Du charbon dans les veines l'année dernière. En tout, il y a 4 Molières qui sont donc à votre nom. Récemment, vous avez signé le roman inspiré lui aussi de faits divers, La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob, aux éditions Albin Michel, qui vient d'être adapté au théâtre Montparnasse, actuellement sur scène. Ce livre et cette pièce nous rappellent, ils nous racontent l'histoire de Danielle Craven, la femme de Georges Craven, le créateur des Césars, des Sept d'Or, des Molières aussi. C'est l'histoire folle, effectivement, de sa femme, Danielle, qui, le 18 octobre 1973, et alors qu'il s'occupait de la promotion du film Les aventures de Rabbi Jacob, a détourné le vol Air France Paris-Nice et menacé de détruire le Boeing 727 si le film n'était pas interdit. Comment vous avez découvert cette histoire, Jean-Philippe Daguerre ?
Lors d'un déjeuner avec Bertrand Tamin, le directeur du théâtre Montparnasse, qui, il y a 3 ans, me dit « j'ai entendu un truc incroyable à la sortie de Rabbi Jacob, c'est ce détournement d'avion ». Et donc il me donne l'anecdote, il me dit « si tu en fais quelque chose, je te produis au théâtre ». Et je suis allé voir Albin Michel en leur disant, comme ils avaient édité mes 2 dernières pièces, je vois Gérard de Cortance, qui est mon référent éditeur chez Albin Michel. Je lui raconte l'histoire de ma prochaine pièce, il me dit « mais il faut en faire un roman, c'est un sujet tellement fait pour un roman ». Donc on m'a commandé la pièce, on m'a commandé le roman, j'ai fait les 2.
Ce qui est incroyable, c'est quand on découvre cette histoire, on se demande pourquoi on ne l'avait pas lue ou qu'on n'en ait pas pris connaissance auparavant, alors que finalement, cette histoire a défrayé la chronique. Comment on l'explique, ça, d'ailleurs ?
C'est partie des questionnements qu'on peut avoir. C'est marrant parce que souvent, c'est la question qu'on me pose, notamment Bertrand Tamin. Ce qui l'intéressait, c'était de savoir comment ça se fait qu'on n'a pas pu se parler. Et moi, je ne me suis pas forcément intéressé à ça, mais je me suis quand même posé la question puisqu'on me l'a posé. Ça a ouvert le 20h avec El Kabash, qui était le grand présentateur à l'époque, quand même. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a eu un procès qu'a fait Craven à l'État français, avec quand même Quetjean et Badinter, des grands avocats. Pendant 2 ou 3 ans, il a essayé de faire qu'on remette en question quand même le verdict. Oui, il y a eu plein de choses très 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 discutables. Mais c'est vrai que je pense que la notoriété de Craven, et dans le milieu du show business, et dans le milieu de la politique, parce qu'il fréquentait tous les grands hommes politiques de l'époque, fait qu'à un moment, il a dû se dire, selon moi, on va pas en faire plus, on en a assez fait dans notre coin. Il y avait ses enfants à protéger, ils avaient 4 et 6 ans à la mort de leur maman, donc je pense qu'il y a un moment où il s'est dit, il faut passer à autre chose. Et je pense qu'on l'a convaincu qu'il fallait passer à autre chose. Et c'est d'ailleurs à partir de là aussi qu'il a créé les Césars, les Molières, que sa carrière a encore explosé. Donc je pense aussi qu'il y a une façon de se comporter vis-à-vis de sa propre famille et vis-à-vis aussi d'un comportement face aux hommes puissants et femmes puissantes. Mais à l'époque, c'était beaucoup les hommes qui étaient puissants. Malheureusement, je pense qu'il a mis le mouchoir sur ce passé. Et c'est quelque chose dans la famille qu'ils ont essayé de digérer et de porter. Pas comme si ça n'avait pas existé, mais c'est quelque chose qu'ils n'ont pas envie de déterrer comme histoire. C'est une histoire enfouie. On dit enfouie parce que moi, je suis un peu dyslexique, je suis désolé. Donc ça a été un peu enfoui et je pense que c'est une façon aussi de se protéger et de passer à autre chose dans la vie.
Votre dyslexie d'ailleurs vous oblige à parler très vite.
Oui, je sais, parce que je perds l'idée, sinon je suis dyslexique. Si je vais pas plus vite, bah, tout d'un coup, vous allez voir, je vais mettre des mots à la place d'un autre.
Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que très vite justement, vous avez souhaité les dompter, ces mots, Jean-Philippe Daguerre. C'est ça, ouais. Le point de départ d'ailleurs de votre entrée dans le métier du théâtre.
J'ai pas réfléchi à ça parce que je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de cette dyslexie. Je viens d'une génération où on faisait pas très attention à ça, où
c'était un peu un tabou d'ailleurs.
On était un brillant à l'école, où on était idiot, ouais. Moi, j'étais un peu les deux. Au début, j'étais plutôt brillant, puis après, je suis devenu un peu idiot. Donc, il y avait sûrement mais c'est vrai que j'ai un problème de concentration particulier. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Je mets des mots à la place des autres. Et d'écrire, ça m'aide énormément. Et c'est vrai que, moi, je fais partie des gens qui ont été sauvés par les écrans, je pense, par rapport à ça. Je me suis décomplexé avec l'arrivée de l'ordinateur. Parce que je raturais tellement quand j'écrivais à la main. Du coup, maintenant, ça a été pour moi, en tout cas, un outil incroyable. Et du coup, je suis très efficace grâce à ça.
Et les premières pages, on découvre la rencontre entre Georges Craven, justement, et Daniel. On est le 26 juillet 1965, elle fête ses 27 ans, elle est entourée d'amis dans un endroit qui s'appelle le Fouquet, ce que tout le monde connaît. Lui, elle le repère tout de suite, elle se dit « tiens, si jamais il lève les yeux vers moi, je vais le voir », c'est ce qu'elle fait. Et c'est ce qu'il fait aussi. C'est vraiment immédiat, il attend Louis de Funès qui est en retard. La rencontre, elle est assez incroyable, on a l'impression d'y être. Il y a effectivement toujours ce côté cinématographique dans votre écriture.
Oui, en fait, j'ai inventé énormément et il y a des choses que j'ai inventées et j'ai appris ensuite qu'elles étaient vraies et d'autres choses que je pensais qui étaient vraies qui étaient inventées. Donc c'est compliqué d'écrire, mais faut rester très romanesque. J'ai pris des faits réels, je me suis attaché au personnage que j'aime. Cette femme, je l'ai énormément aimée en découvrant à travers des témoignages ce qu'elle a fait, ce qui elle était. Et Louis de Funès, c'est une de mes idoles, et Rabbi Jacob, c'est un de mes films cultes. Donc de pouvoir raconter l'histoire de cette femme méconnue, qu'on a mis de côté, alors que c'était une femme assez extraordinaire, et la confronter à Louis de Funès, c'était un peu pour moi un rêve. Donc je me suis beaucoup amusé dans cette tragédie tragicomique, parce qu'il y a dans le personnage de Daniel beaucoup de fantaisie, beaucoup d'humour. Elle avait ça en elle. Elle faisait énormément rire. Et Louis de Funès, qui est pour moi un des génies du XXe siècle en France, de l'humour.
Elle était beaucoup plus jeune que lui, hein, que ouais, Georges Craven, Daniel. Mais elle a su très vite ce qu'elle voulait faire. Elle voulait changer le monde. Ça, c'est un fait réel, en tout cas.
C'est une idéaliste.
Le fait qu'elle veuille toujours faire bouger les lignes, faire avancer les choses.
Elle avait accès au salon mondain. Et il venait manger à la maison, les Pompidou et toute la famille. Et puis les stars. Georges Craven, il a créé le Fouquet. C'est lui qui a vraiment développé le monde de la nuit, du show business. C'est quelqu'un qui était très entouré. Donc, elle était une femme, une des rares femmes qui prenait la parole au milieu de tous ces hommes. Donc, elle a mis son grain de sable dans tout. Et puis, elle était très franche. Et comme elle avait cette maladie de la bipolarité, qu'à l'époque, on appelait maniaco-dépressive, qui a été analysée plus tard. Mais le comportement, ça m'a énormément intéressé. Étant ami avec notamment deux, trois personnes qui ont cette maladie, dont une de mes meilleures amies, ce sont des êtres extrêmement attachants. Et dans leur fulgurance de comportement, quand ils s'emparent d'un sujet, ils sont tellement à 100%. Et puis, avec beaucoup de générosité pour tous ceux qui les entourent, que moi, c'est quelque chose que ça m'intéressait aussi de traiter ça à travers toute cette histoire romanesque au milieu d'un fait réel.
Elle était effectivement au cœur de ces soirées mondaines, avec toujours le regard bienveillant de Georges, et puis qui menait son monde d'ailleurs, parce que tout le monde le connaissait. C'est vrai qu'il avait accès au plus grand de ce monde. Mais en même temps, elle était même adulée par certaines personnes. Brigitte Bardot, vous citez Jeanne Moreau. On comprend qu'elle était dans l'ombre, mais que c'était un personnage qui comptait.
Tout ça, c'est des choses que j'ai inventées avec Bardot, mais en tout cas, elle est fréquentée. Moi, après, on invente beaucoup à travers ce qu'on peut penser, comme la rencontre avec Françoise Dolto. Moi, je l'ai imaginé parce que je me suis dit, Georges Craven, qui va-t-il consulter en premier quand on lui dit, ma femme a des problèmes psychologiques ou de dépression. Françoise, là, c'est la mère de Carlos. On va lui demander à Françoise ce qu'elle en pense. Donc, j'ai imaginé cette scène où c'est Françoise qui la reçoit pour lui parler de ce problème de la maniaco-dépression. Donc, moi, j'ai inventé plein de choses. En tout cas, c'est sûr qu'elle voulait pas que le film Rabbi Jacob se fasse. Elle voulait convaincre, elle a écrit à Gérard Horry pour qu'il ne se fasse pas. Elle s'est mis de beaucoup de choses. Après, je sais même pas si elle a été rencontrée en direct Louis de Funès. Ça, je l'ai inventé. J'en ai parlé de Daniel Thompson. Elle me dit c'est possible ou ce n'est pas possible.
La fille de Gérard Horry.
Oui, qui est la fille de Gérard Horry, qui a coécrit Rabbi Jacob. Donc, il y a tellement de choses. On n'est pas vraiment au courant de tout. En tout cas, elle est capable de l'avoir fait. Donc, à part moi, elle a été capable de l'avoir fait, que c'est crédible. Moi, je m'en suis emparé et je me suis amusé avec ça.
Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, elle était contre la sortie de ce film. Elle trouvait qu'on ne pouvait pas rire de tout, que c'était intolérable. D'ailleurs, au vu de la situation internationale, hein, le film est sorti en pleine guerre du Kippour. On va quand même le rappeler. On vit un espèce de retour en arrière. On a l'impression que c'est un cercle.
Oui, 50 ans plus tôt, le problème, c'est terrible à dire, mais c'est vrai qu'on se rencontre en 1973, plus de 50 ans après, le conflit est à peu près dans les mêmes proportions. Avec une médiatisation beaucoup moins forte à l'époque, mais ça a duré plusieurs années, avec beaucoup de violence aussi.
Ce qu'on découvre en tout cas au fil des pages, c'est ce couple. Même s'il y a des choses qui sont romancées, le lien qui les unissait était extrêmement fort. Il était fou amoureux d'elle. Il avait conscience effectivement qu'elle avait un comportement différent, mais il était très attaché à elle, très soucieux d'ailleurs de faire en sorte qu'elle soit heureuse aussi. Elle le rendait heureux. On comprend en tout cas à quel point elle l'a rendu vivant.
Moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé, cette relation amoureuse quand même. À travers cet homme capable d'aimer une femme avec ce comportement-là. Et puis, elle est pas tant quelqu'un qui a l'habitude de rencontrer des gens assez épatants, entre guillemets, en tout cas, les stars, les gens qui brillent. De réussir à être dans ce milieu d'hommes comme ça, de se comporter comme ça, de le charmer. L'histoire d'amour m'a beaucoup plu. C'est vraiment l'essentiel du roman en soi, au-delà du fait qu'il y a cette histoire avec Louis de Funès. Mais je sais que Georges Craven l'a énormément aimé. J'ai eu des témoignages par rapport à ça, sa grande tristesse, sa grande douleur, parce que mine de rien, il s'est battu pendant plusieurs années pour rétablir la vérité, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. On l'a fait passer pour une folle très rapidement. On a titré la folle à la carabine. L'histoire de la carabine, elle est très douteuse, c'est même pas sûr qu'elle avait vraiment une carabine. Il y a plein de choses, c'est très très flou, très compliqué. Mais c'est vraiment, moi je me suis intéressé à cette histoire d'amour parce que je la trouvais très belle en fait, très romanesque aussi évidemment.
Tour à tour, vous créez des histoires parallèles. Vous faites parler Georges Craven, vous faites parler justement Daniel Craven, la femme de Louis de Funès. Et puis en parallèle, on a effectivement cette journée pendant laquelle elle va commettre l'irréparable. Enfin, elle va décider effectivement de détourner un avion, ce fameux Paris-Nice. On a l'impression effectivement d'évoluer comme un travail au fil du temps, et en même temps on tombe amoureux des personnages. Et ces personnages, ils ont vraiment existé, même si encore une fois ils sont romancés. Ils se dégagent de chacun d'entre eux quelque chose qui relève de la cinématographie et du théâtre.
On est comme dans un contexte au milieu d'un film. C'est la conception de Rabbi Jacob quand même. Ça se passe pendant tout ce temps-là, l'histoire. Donc c'est vrai que je voulais avoir cette référence à la fois cinématographique, théâtrale, parce que c'est ma passion, c'est mon métier. Que en plus j'en ai fait une pièce, donc c'est vrai que je voulais rendre hommage à tout ça, à travers ça, et dans le traitement et de la pièce. pièce et du récit. Il y a un côté un peu scénaristique qui peut faire penser à un scénario de cinéma, oui.
Ce qui est certain, en tout cas, et Daniel Thompson le dit à voix haute, aujourd'hui encore, c'est que Rabbi Jacob, ça a été une vraie question de savoir si ce film devait exister, s'il devait être produit, surtout dans la période dans laquelle ça a eu lieu. On pense aussi à ce qui s'est passé au JO avec tous ces athlètes qui ont été assassinés. C'est vrai que c'était un contexte géopolitique très compliqué, de guerre très compliquée, un conflit qui malheureusement perdure encore aujourd'hui. On se pose la question de savoir si aujourd'hui on pourrait sortir un tel film.
En fait, ça m'a encouragé à le faire. Je me suis dit, Rabbi Jacob, alors je pense pas que je suis le nouveau Gérard Horry qui va faire 8 millions de ventes avec mon livre, comme ils ont fait 8 millions d'entrées, mais ça raconte quelque chose. On peut quand même essayer de proposer une œuvre artistique, un roman ou une pièce ou un film, où tout d'un coup, dans le contexte, il y a des éléments qui sont dans l'actualité difficiles à digérer. Mais c'est vrai que la question se pose tout le temps. Mais dès qu'on écrit un spectacle, par exemple, là, c'est mon premier roman, mais évidemment que j'y ai pensé. Enfin, moi, je fais une œuvre humaniste, donc j'ai pas fait une œuvre qui est politique en soi. Je fais une œuvre où les êtres humains, j'essaye de les aimer, les faire parler, de faire parler Louis de Funès. J'essaye de me mettre à l'intérieur de ce qu'ils peuvent penser à ce moment-là. C'est un jeu, mais c'est un jeu qu'on fait en s'attachant aux personnages. Moi, je ne peux pas écrire sans m'attacher aux personnages. J'écris pas des œuvres polémiques. Ce n'est pas une œuvre polémique. C'est une œuvre.
Moi, s'en fout. Non, non, c'est une histoire que vous nous racontez.
L'amour du cinéma, de Rabbi Jacob, de Louis de Funès, de Daniel Craven, de Georges Craven. J'essaye de raconter l'amour tel que je le perçois avec mes mots.
Ce qu'on sait, par contre, c'est que Louis Funès a mis du temps à dire oui. Parce que en plus, Gérard Oui lui demandait de faire des grimaces et on l'avait un peu bousculé en disant qu'il en faisait trop. Donc il y a une espèce de rivalité qui s'est créée. C'était très tendu sur le tournage.
Il y avait beaucoup de doutes. Poiré, qui était le producteur de l'époque, qui avait produit La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, je crois aussi, il sortait sur des énormes triomphes. Donc quand vous triomphez, vous avez toujours peur de celui qui arrive après. Donc en plus sur les sujets sur les religions, tout le monde craignait. Même Gérard Oui, là, plusieurs fois, il a pensé ne pas sortir le film, attendre plus tard, que la guerre se calme. Il y a eu beaucoup de... Et finalement, le film est sorti, ça a été une délivrance, parce que c'était un message de paix, une comédie qui donne un message de paix, et je pense que les gens en avaient besoin.
C'est une réalité, ça, que l'écriture fait vraiment partie de vous, que vous aimez distraire aussi beaucoup. À quel âge vous avez compris que le théâtre allait faire partie de votre vie ?
Très tôt, en CM2, quand je récitais des poèmes devant les autres élèves, je sentais qu'ils m'écoutaient. Quand je jouais Sganarelle du Médecin Malgré Lui en 6e, je sentais que je faisais rire les copains. Puis les professeurs, instituteurs, professeurs, ils ont été voir mes parents, ma mère en l'occurrence, en disant que j'avais une aptitude pour ça. Et puis comme mes études n'ont pas été très brillantes, ça a été de pire en pire, le théâtre m'a un peu sauvé. Au fond de moi, je savais que je ferais ce métier de toute façon.
Vous avez commencé par le classique d'ailleurs. Et rapidement, vous vous êtes dit, tiens, je vais me mettre au service des autres. C'est important, oui. C'est un trait de votre personnalité, ça aussi.
Moi, ce qui m'intéressait, c'est de créer une compagnie. J'ai créé avec ma femme, elle a créé le Grenier Babouchka, notre compagnie, il y a 22 ans. Je l'ai rencontré 2 ans après sa création. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. On fait travailler 80 comédiens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'esprit de troupe. Et comme je suis un fan de sport au départ, fan de foot, de rugby, j'aurais adoré faire une carrière au départ dans le sport, que j'étais pas assez doué pour ça. Du coup, j'ai trouvé l'esprit d'équipe que j'adorais à travers le sport co. J'ai trouvé dans le théâtre. J'ai réuni des grosses équipes, donc j'ai monté Molière, beaucoup de pièces de Molière, parce qu'on pouvait mettre plein de monde sur scène. Le Bourgeois Gentilhomme a été ma première, il y avait 16 comédiens, j'en ai monté 9. Donc c'est vrai que Cyrano de Bergerac, le Cid qui se joue toujours encore, c'est des trucs de troupe, d'équipe. Moi, c'est créé un tissu familial qui m'intéresse le plus.
Quand on regarde bien votre parcours, ça force le respect. Hein. Avec Adieu Monsieur Hoffmann et Pour du charbon dans les veines, vous avez reçu pas moins de 4 Molières. Je voudrais que vous me racontiez ce que ça représente pour vous d'obtenir un Molière.
Ce qui me touche le plus au départ, le premier réflexe, c'est de se sentir adoubé par les gens de notre profession, c'est eux qui votent. Et c'est vrai que quand on est un artisan de ce métier, parce que moi je ne me prends pas pour autre chose qu'un artisan, terme un peu galvaudé parfois, mais on est heureux que nos pères reconnaissent votre travail et notre état d'esprit aussi, c'est un tout. Et c'est vrai que oui, j'ai une fierté. En plus, Molière, je reçois un Molière, c'est mon auteur vraiment fétiche, préféré. Ça m'a beaucoup touché, évidemment. C'est toujours une reconnaissance. Et surtout, moi, ça m'aide énormément parce que je fais pas travailler de tête d'affiche. Je travaille qu'avec des gens qui ne passent pas à la télé ou au cinéma. Ce sont des comédiens de théâtre. Et c'est vrai que ça encourage énormément ce travail de pas être obsédé par la tête d'affiche. Sachant qu'il y a plein de têtes d'affiches que j'admire énormément. C'est même les têtes d'affiches, moi, qui viennent de province, qui m'ont donné envie de faire du théâtre parce que je les regardais à la télé. Donc, j'ai rien contre les têtes d'affiches, mais c'est tellement jubilatoire de démarcher ce théâtre de troupe avec plein de gens inconnus que les gens, le grand public ne connaît pas, mais montrer à quel point ils ont du talent et de créer les choses avec eux, c'est un défi supplémentaire. Donc, quand on reçoit des Molières en n'ayant aucune tête d'affiche, c'est une vraie fierté.
Ce roman, il permet d'aller rencontrer quelqu'un qui est totalement à l'inverse. Georges Craven, il n'aimait que les têtes d'affiches, que les gens connus, que les superstars. et vous êtes complètement à l'opposé. Ça vous a attiré, ça, justement, de pouvoir vous mettre dans la peau de quelqu'un que vous n'étiez pas?
Oui, puis je me suis plutôt mis dans la peau de Daniel Craven, quand même. Mais je me suis mis de son côté aussi, parce que je les fréquente aussi, ces personnes célèbres, beaucoup moins que lui. Mais grâce aux Molières, on rencontre des gens un peu plus célèbres, hein, ça fait partie du jeu. Voilà, c'est intéressant d'observer ce qu'ils sont. Et puis, il y a des gens formidables dans toutes les communautés. Hein. Je fais pas de classement là-dessus. Mais moi, j'aime parler des gens simples. George Craven, c'est la première fois que je m'attaque vraiment à un personnage de notoriété. Dans toutes mes pièces, je prends des gens issus de milieux simples. Dans Adieu Monsieur Hoffman, on est chez les petits bijoutiers, petits coiffeurs, on est chez des coiffeurs, Le Charbon dans les Veines, on est chez des mineurs de fond en 58. Là, je vais un peu plus titiller le show business et la politique, mais j'essaie de trouver, à travers le rôle de Daniel, cette personne qui est dans le show business avec eux, mais qui amène une humanité, une simplicité, un esprit vrai, authentique et attachant. Donc voilà.
Vous avez travaillé d'abord sur le roman ou d'abord sur la pièce de théâtre?
Un peu sur les deux en même temps. D'abord sur la pièce de théâtre parce que c'était mon premier projet.
C'était un contrat d'ailleurs.
C'était un contrat moral.
Ouais, voilà, moral. Ouais.
Avec Albin Michel, c'est aussi un contrat moral d'une certaine manière. On vous fait une commande, mais si vous y arrivez, vous y arrivez pas. C'est ça qui est plutôt sympa. C'est, on essaye. Et puis en même temps, je ne l'ai fait que parce que j'étais inspiré par le sujet. Parce que même si Bertrand Tamin me dit, si tu me fais une pièce, je la produis. Moi, j'ai passé la nuit à lire le soir tout ce que j'ai pu lire sur Google, sur Daniel Craven, sur cette histoire incroyable. Il a fallu que je me connecte à quelque chose qui me touche pour avoir envie de le raconter. Le fait divers était extraordinaire, mais j'avais pas envie d'écrire un bouquin sur un fait divers. Ce qui m'a touché, c'est de savoir que George Craven avait un fils à l'époque de 22 ans, et il ne lui avait jamais dit, en l'épousant et en lui faisant deux enfants, qu'il avait un fils, qui s'appelle Charles. Et tout d'un coup, elle découvre que ce fils existe par quelqu'un d'autre. Elle appelle le fils, elle appelle Charles, et elle lui dit, je suis la femme de ton père. À partir d'aujourd'hui, tu es comme un fils pour moi, et tu peux revenir à la maison, tu seras comme un fils, ta femme sera la bienvenue, tes enfants seront mes petits-enfants. Donc, quelqu'un qui fait cet acte-là, moi tout de suite, je tombe amoureux de cette femme grâce à ça. Et tout le reste, je le laisse à ceux qui ont envie d'écrire sur le côté policier et thriller, même s'il y en a, j'ai essayé quand même de garder un petit peu ça. Mais c'est ça qui m'a donné envie d'aimer cette femme.
Merci beaucoup Jean-Philippe Daguerre d'être passé dans Le Monde d'Élodie sur France Info. La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob, donc d'un côté c'est sorti chez Albin Michel. Si vous voulez l'offrir et redécouvrir cette histoire juste incroyable, n'hésitez pas, même si encore une fois c'est romancé. Et puis c'est actuellement également au théâtre Montparnasse, à Paris, dans le 14e. Merci beaucoup.
Merci Élodie.